الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ceci est la suite de la série de cours intitulée Le blâme de la dureté du cœur, un écrit dont l'auteur est l'éminent savant l'imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, que nous avions commencé pendant le mois de Ramadan 1446 de l'égir du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, et sur lequel nous nous étions arrêtés avant d'avoir pu achever l'étude de cet écrit bénéfique. Et j'avais dit que j'allais poursuivre cette étude après Ramadan à travers des cours en ligne. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et nous nous étions arrêtés après avoir vu les causes menant à la dureté des cœurs, si bien que les cœurs ne tirent plus profit du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'au-delà et de ce qu'il adviendra de chacun d'entre nous lorsqu'il comparaîtra devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Nous avions commencé à entamer le troisième volet de cet écrit portant sur les remèdes afin d'adoucir les cœurs. Et dans cette troisième partie, nous avions déjà vu l'abondance de rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout lorsque le rappel est prononcé par la langue accompagné du cœur et parfois même des membres. Nous l'avions détaillé dans la dernière assise. Ensuite, nous avions vu une parole d'un des salafs, Yahya ibn Mu'adh, ainsi que Ibrahim al-Khawwas, tous deux qui ont dit « Dawa'u al-qalbi khamsatu ashiya » Le remède du cœur réside dans cinq choses. « Qira'atu al-Qur'an » بالتفكر la lecture du Coran avec méditation وخلاء البطن vider son ventre c'est-à-dire manger peu وقيام الليل prier la nuit وتضرع عند السحر le fait de se fendre d'humilité devant Allah lors de la fin de la nuit ومجالسة الصالحين et s'asseoir avec les vertueux, c'est-à-dire avoir de bonnes fréquentations, c'était le dernier point que nous avions développé. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, nous continuons donc. L'imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit wal aslu fi izalati qaswati al-qulubi bi dhikri qawluhu ta'ala alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Et la preuve qui montre que la dureté du cœur disparaît par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala est le verset suivant. Dans le sens rapproché, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux qui ont eu la foi et dont les cœurs se sont apaisés au rappel d'Allah, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans ce verset une réalité qui est connue par ceux qui la vivent. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala adoucit le cœur, apaise l'âme. Combien ont eu même des grands soucis dans leur vie qui ont causé des troubles psychologiques et qui n'ont pu revenir à la tranquillité que par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une vie sans rappel d'Allah azza wa jal n'est pas une vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ L'image de celui qui évoque son Seigneur et celui qui ne l'évoque pas est semblable aux vivants et aux morts. Quand on dit que le rappel d'Allah Azza wa Jal fait vivre les cœurs, il repose les âmes, il procure la quiétude, la sérénité. Il fait que la personne ne s'inquiète pas, elle s'apaise au rappel d'Allah, pleinement convaincue en Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce verset, il y a une forme interrogative. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Et ce qui est voulu ici n'est pas de nous interroger afin que nous apportions à Allah une réponse, subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est voulu ici, ce n'est qu'affirmer que le plus grand moyen d'apaiser les cœurs est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a même des médecins musulmans qui ont affirmé que certains de leurs patients souffrant de troubles psychologiques, qui ne se sentent pas à l'aise en eux-mêmes, ont pu voir le jour, ont pu voir la quiétude après avoir suivi le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens qui évoquent le nom d'Allah azza wa jal sont les gens qui sont les plus proches du repos de l'âme. Et méditez bien dans la vie de tous les jours sur les gens qui vous entourent avec leur diversité et les disparités qu'il y a entre eux. Regardez celui qui évoque le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout ceux qui l'évoquent abondamment, puis méditez sur ceux qui n'évoquent Allah que très peu ou qui ne l'évoquent pas. Et vous verrez une grande différence dans leur vie. Malgré peut-être les différences qu'il y a entre eux dans les moyens, certains peuvent être très riches et disposer de beaucoup de choses mondaines, pendant que d'autres n'ont presque rien de ce que les premiers ont. Et pourtant, ce sont les deuxièmes qui n'ont presque rien, qui paraissent être heureux et à l'aise dans leur vie. Le secret n'est autre qu'ils sont dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec le rappel d'Allah azza wa jal, tu te protèges des wasawis de shaitan. Avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, le diable ne peut rien contre toi. Allah azza wa jal a dit à Iblis, « Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. » Mes serviteurs, tu n'auras aucune emprise sur eux. Et qui sont ces serviteurs, si ce n'est ceux qui évoquent Allah azza wa jal, et qui l'évoquent abondamment? Plus tu évoques Allah azza wa jal, plus il te protège des maux de toutes sortes. Il y a même une protection contre la sorcellerie dans le rappel d'Allah Azza wa Jal. Combien ont failli être victimes de sorcellerie et finalement se sont vus protégés par Allah Azza wa Jal avec le rappel d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et donc, il faut comprendre que le rappel d'Allah Azza wa Jal, c'est une des bases pour le repos de l'âme et pour adoucir le cœur. Combien parmi les salafs se plaignaient de la dureté du cœur chez des gens qui leur répondaient « Adoucis ton cœur par le rappel d'Allah. Fais fondre la dureté de ce cœur par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Également, Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dit وَقَوْلُهُ تَعَالَى اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. Dans le sens du verset, Allah fait descendre la meilleure parole. La meilleure parole, c'est le Coran. Allah est celui qui fait descendre la meilleure parole, un livre dont les versets se ressemblent et par lequel la peau de ceux qui craignent leur Seigneur et le redoutent frémit. Puis leur peau s'adoucit ainsi que leur cœur au rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ahsanul hadith, la meilleure des paroles, de façon absolue, nous dit l'imam Abdurrahman ibn Nasir ibn Si'di rahimahullah, c'est le Coran, c'est la parole d'Allah azza wa jal. Ce Coran qui est le meilleur des livres qu'Allah ait fait descendre. Et si c'est le meilleur des livres, nous dit l'imam ibn Si'di rahimahullah, alors il contient les meilleurs termes, les termes les plus explicites, les plus éloquents, les plus clairs, de même que les sens contenus par ce Coran sont les plus explicites, les plus éloquents, les plus clairs, parce qu'il n'est autre que la meilleure parole dans ses mots et dans ses sens, de tout point de vue. C'est la meilleure des paroles. Des versets qui sont répétés nous fait comprendre Allahu Azza wa Jal. Des versets qui sont répétés, c'est-à-dire que les histoires se répètent, de même que les règles dans le Coran, ou encore les promesses faites par Allah, ou les menaces, les descriptions des gens du bien, tout comme les descriptions des gens du mal, les noms et attributs d'Allah qui sont toujours répétés dans le Coran. Pourquoi est-ce que tout cela a été répété? Abdurrahman ibn Si'di rahimallah nous dit فَإِنَّهُ تَعَالَى لَمَّا عَلِمَ احْتِيَاجَ الْخَلْقِ إِلَى مَعَانِيهِ الْمُزَكِّيَةِ لِلْقُلُوبِ الْمُكَمِّلَةِ لِلْأَخْلَاقِ وَأَنَّ تِلْكَ الْمَعَانِي لِلْقُلُوبِ وَأَنَّ تِلْكَ الْمَعَانِي لِلْقُلُوبِ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ لِسَقِيِ الْأَشْجَارِ فَكَمَا أَنَّ الْأَشْجَارَ كُلَّمَا بَعُدَ عَهْدُهَا بِسَقِيِ الْمَاءِ نَقَصَتْ بَلْ رُبَّمَا تَلِفَتْ وَكُلَّمَا تَكَرَّرَ سَقِيُهَا حَسُنَتْ وَأَثْمَرَتْ أَنْوَاعَ الثِّمَارِ النَّافِعَةِ فَكَذَلِكَ الْقَلْبُ يَحْتَاجُ دَائِمًا إِلَى تَكَرُّرِ مَعَانِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ. Ibn Si'di rahimahullah nous dit une parole très importante. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a su combien est grand le besoin de ses créatures vis-à-vis du rappel d'Allah Azza wa Jal et des sens qui font vivre leur cœur, qui augmentent en bien leur comportement. Quand Allah Azza wa Jal a su combien est grand le besoin que les serviteurs ont de ressentir ces sens dans leur cœur, à l'image de l'eau par laquelle on arrose les arbres, plus le temps est long entre l'arrosement de l'arbre, entre le fait, plus le temps est long entre le fait de nourrir cet arbre, justement, plus cet arbre va dans la diminution, peut-être même qu'il va périr, n'est-ce pas? Et plus on l'arrose et on lui donne ce dont il a besoin, plus il se met à vivre, à repousser et à même produire des fruits utiles pour les gens, eh bien, il en est ainsi pour le cœur, qui est dans un besoin constant que les sens de la parole d'Allah Azza wa Jal se répètent en lui, dans ce cœur-là. Il dit « Wa annahu law takarrara alayhi al-ma'na marratan wahidatan fi jami'i al-Qur'an lam yaqa' minhu mawqi'a » Et si le sens du Qur'an avait été répété juste une seule fois, peut-être qu'il n'aurait pas eu cet impact dans les cœurs des gens. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a des versets qui se répètent. Parce que le cœur qui médite le Coran quand il le lit a besoin, tout comme cet arbre, d'être arrosé plusieurs fois pour vivre et produire même des fruits utiles aux autres. Eh bien, il a besoin que le rappel d'Allah, l'essence contenue dans les rappels, dans les versets du livre d'Allah, ne cesse de se répéter en lui afin d'être à l'image de cette eau qui ne cesse de tomber pour continuer à nourrir cet arbre qui en fait est le cœur. Car sans ça, il n'y a pas de résultat. Et c'est pour cela que l'imam Ibn Si'di rahimahullah, dans son tafsir du Coran, chaque fois qu'il passe par un verset, quand bien même ce verset aurait été déjà cité dans d'autres sourates, Eh bien, il l'explique quand même. Écoutez ce qu'il dit, c'est très intéressant. Il dit « وَلِهَذَا سَلَكْتُ فِي هَذَا التَّفْسِيرِ هَذَا الْمَسْلَكَ الْكَرِيمِ اِقْتِدَاءً بِمَا هُوَ تَفْسِيرٌ لَهُ فَلَا تَجِدُ فِيهِ الْحَوَالَةَ عَلَى مَوْضِعٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ بَلْ كُلُّ مَوْضِعٍ تَجِدُ تَفْسِيرَهُ كَامِلَ الْمَعْنَى غَيْرَ مُرَاعٍ لِمَا مَضَى مِمَّا يُشْبِهُهُ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْمَوَاضِعِ يَكُونُ أَبْسَطَ مِنْ بَعْضٍ وَأَكْثَرَ فَائِدَةً وَهَكَذَا يَنْبَغِي لِلْقَارِئِ لِلْقُرْآنِ الْمُتَدَبِّرِ لِمَعَانِيهِ أَلَّا يَدَعَ التَّدَبُّرَ فِي جَمِيعِ الْمَوَاضِعِ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ وَنَفْعٌ غَزِيرٌ. Et c'est pour cette raison, nous dit l'imam Ibn Sa'di rahimahullah, que j'ai suivi cette méthodologie dans mon explication du Coran. Et c'est pour cela que tu ne trouveras pas, c'est-à-dire comme on peut le trouver dans d'autres tafsirs du Coran, beaucoup sont les savants qui ont expliqué le Coran, qui lorsqu'ils passent par un verset qui a déjà été expliqué, disent « ce verset a déjà été expliqué dans telle surah ». Il dit « dans mon tafsir, tu ne trouveras pas ça ». Au contraire, j'explique chaque verset complètement chaque fois qu'il se répète, sans prendre en compte le fait que ce verset a déjà été cité dans une surah précédente. Mais il se peut que parfois je m'étale plus dans un contexte, certes. Et c'est ainsi que doit être le lecteur du Coran, qui médite les sens. Il ne doit laisser aucun verset passer sans le méditer. Ibn Sa'di rahimahullah dit ensuite « وَلَمَّا كَانَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ بِهَذِهِ الْجَلَالَةِ وَالْعَظَمَةِ » Et du fait que le Coran ait cette grande ampleur et cette immensité, « أَثَّرَ فِي قُلُوبِ أُولِي الْأَلْبَابِ الْمُهْتَدِينَ » Il a impacté sur le cœur des gens doués de raison, des gens qui se sont vus guidés. Et c'est pour ça que dans la suite du verset, « فَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ » La peau de ceux qui redoutent leur Seigneur frémit à l'entente du Coran. « لِمَا فِيهِ مِنَ التَّخْوِيفِ وَالتَّرْهِيبِ الْمُزْعِجِ » En raison de ce que ce Coran contient comme information suscitant la crainte et la peur dérangeante. Puis Allah Azza wa Jalla dit ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. Puis leur peau, la peau des gens qui lisent le Coran, les croyants qui le méditent, qui le comprennent, la peau de ces gens-là ainsi que leur cœur s'adoucissent au rappel d'Allah. Ils s'adoucissent, nous dit l'imam Ibn Sa'di rahimahullah, dans les passages qui font susciter l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ainsi est le Coran, qui parfois nous fait susciter crainte et d'autres fois espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah azza wa jal dit ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ. Telle est la guidée d'Allah par laquelle il guide qui il veut subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Ensuite, Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit وَقَالَ تَعَالَى أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont eu la foi que leur cœur s'attendrisse au rappel d'Allah et ce qui a été révélé de la vérité? Ce verset-là, nous l'avions déjà étudié lors d'une précédente assise. Au point où Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, un des plus grands compagnons, a dit « Il n'y a eu entre notre entrée en islam et la révélation de ce verset que 4 années qui se sont écoulées. » Sachant qu'ils font partie des imams de la communauté, des élites, des modèles. Allah Azza wa Jal leur a dit 4 ans après qu'ils soient entrés en islam, le moment n'est-il pas venu? Il est temps que vos cœurs s'adoucissent, s'attendrissent, s'humilient au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le rappel d'Allah est donc un des plus grands moyens d'adoucir son cœur et d'éliminer la dureté du cœur. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala nous dit ensuite: wa fi hadith Abd al-Aziz ibn Abi Rawad mursala an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam إن هذه القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد قيل فما جلاؤها يا رسول الله قال تلاوة كتاب الله وكثرة ذكره. Dans ce récit, le récit de Ibn Abi Rawad rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam: إن هذه القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد. Certes, ces cœurs se rouillent, tout comme le fer se rouille. Il fut dit: et comment dissiper cela, ô messager d'Allah? Il répondit: par la récitation du livre d'Allah et l'abondance de son rappel. L'abondance de son rappel. Les cœurs rouillent comme le fer. Vous savez que quand le fer rouille, il y a cette matière de couleur marron qui s'installe et qui prend place sur le fer. Si on laisse cette matière-là sans l'enlever, sans la nettoyer, que se passe-t-il? Elle va augmenter, elle va grandir. Elle peut aller jusqu'à détruire ce fer et le casser. Ainsi sont les cœurs, qui rouille lorsqu'il s'éloigne d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il n'évoque pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se mettent à se rouiller. Ils deviennent alors usés, affaiblis, et ils sont en danger de cassure, comme c'est le cas du fer. Et à quel moment ou par quel moyen peut-on faire revivre ces cœurs? Peut-on nettoyer ces cœurs et enlever la rouille qui vient recouvrir ses cœurs? C'est par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ou avant de citer la parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, nous voyons donc dans ce récit le mal et son remède. Quel est le mal? Le cœur est rouillé. Quel est le remède? Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu commets un péché, ton cœur devient rouillé, proportionnellement au péché commis. Si tu accumules les péchés, tu accumules la rouille. Alors le cœur deviendra dur, et il s'en faudra de peu pour qu'il se détruise par les péchés. Le remède, al-istighfar, la demande de pardon d'Allah Azza wa Jal, l'abondance de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit dans son livre Al-Wabil al-Sayyib min al-Kalim al-Tayyib, l'averse abondante de bonnes paroles, il dit, je cite: wa la rayba anna al-qalba yasda'u kama yasda'u an-nuhas wal-fidda wa ghayruhuma. Nul doute que le cœur rouille tout comme le cuivre, l'argent et autres matières rouillent. وجلاؤه بالذكر فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء. Et le moyen de remédier à cette rouille, c'est, et de la faire disparaître, c'est le dhikr, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, le rappel d'Allah nettoie le cœur au point de le laisser tel un miroir blanc. Un miroir, imaginez-vous un miroir brillant, propre. Ainsi est l'effet du rappel d'Allah sur le cœur dur. فَإِذَا تُرِكَ صَدِئَ. فَإِذَا, si le cœur est donc abandonné, il n'y a pas de rappel, le cœur se met à rouiller. وَصَدَأُ الْقَلْبِ بِأَمْرَيْنِ بِالْغَفْلَةِ وَالذَّنْبِ. Et la rouille des cœurs se produit par deux choses, nous dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah: l'insouciance au rappel d'Allah et le péché. Chaque fois que tu es insouciant, chaque fois que tu es dans le péché, sache que ton cœur est atteint de rouille. وجلاؤه بشيئين, et la disparition de cette, ou l'élimination de cette rouille, se fait par deux choses, bilistighfari wa dhikr, par la demande de pardon d'Allah Azza wa Jal, et le rappel d'Allah, al-dhikr. فَمَنْ كَانَتِ الْغَفْلَةُ أَغْلَبَ أَوْقَاتِهِ كَانَ الصَّدَأُ مُتَرَاكِبًا عَلَى قَلْبِهِ. Ibn al-Qayyim rahimallah nous dit, celui dont l'insouciance prend la majeure partie de son temps, n'est donc pas dans le rappel d'Allah Azza wa Jal, la rouille s'accumule sur son cœur. وَصَدَأُهُ بِحَسَبِ غَفْلَتِهِ, et la rouille du cœur est proportionnelle à son insouciance. وَإِذَا صَدِئَ الْقَلْبُ لَمْ تَنْطَبِعْ فِيهِ صُوَرُ الْمَعْلُومَاتِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ. Écoutez bien la conséquence de la rouille du cœur, c'est très important. Et lorsque le cœur est rouillé, alors les choses perceptibles, les choses de la vie de tous les jours, n'apparaissent plus sous leur vraie forme. C'est-à-dire que la personne perd la clairvoyance dans sa vie. Écoutez la suite de la parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه فيرى الباطل في صورة الحق. Et la personne au cœur rouillé se met à voir le faux dans la forme du vrai. Elle pense du faux que c'est le vrai. والحق في صورة الباطل. Et le vrai dans la forme du faux. Elle pense de ce qui est vrai que c'est faux. Elle perd la perception correcte. Elle perd le discernement. Elle perd l'aide d'Allah à voir les choses comme elles sont. Le vrai en vrai et le faux en faux. Et c'est le contraire qui se produit en elle. Elle s'égare. Elle pense que dans son égarement, elle est dans le vrai. Et quand elle voit la guidée qui est le vrai, elle pense que c'est l'égarement. Elle est dans l'incompréhension. Elle s'éloigne pas à pas d'Allah Azza wa Jal. À cause de quoi? Au début, à cause de l'insouciance au rappel d'Allah, qui a causé la rouille de son cœur, qui lui a causé une mauvaise perception des choses. Ibn al-Qayyim rahimallah dit, لِأَنَّهُ لَمَّا تَرَاكَمَ عَلَيْهِ الصَّدَأُ أَظْلَمَا فَلَمْ تَظْفَرْ فِيهِ صُورَةُ الْحَقَائِقِ كَمَا هِيَ عَلَيْهِ. Il en est ainsi car quand la rouille s'est accumulée sur son cœur, ce cœur s'est assombri et l'image correcte des choses ne lui apparaît plus. Ça en soi c'est une punition qu'Allah nous en préserve. Ibn al-Qayyim continue et conclut en disant فَإِذَا تَرَاكَمَ عَلَيْهِ الصَّدَأُ إِسْوَدَّ وَرَكِبَهُ الرَّانُ فَسَدَ تَصَوُّرُهُ وَإِدْرَاكُهُ فَلَا يَقْبَلُ حَقًّا وَلَا يُنْكِرُ بَاطِلًا وَهَذَا أَعْظَمُ عُقُوبَاتِ الْقَلْبِ. Allahu Akbar. Ibn al-Qayyim dit, et lorsque la rouille s'accumule sur le cœur de qui? De la personne qui n'évoque pas le nom d'Allah, donc qui est insouciante. Lorsque la rouille s'accumule sur le cœur, ce cœur devient noir et il est pris de ce que l'on appelle Arran. Arran, c'est la souillure qui habite le cœur, dont Allah a parlé dans le verset quand il dit كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Mais non, plutôt, c'est le ran, c'est la souillure qui a pris leur cœur à cause des péchés qu'ils commettaient. Ce ran, cette souillure-là, elle recouvre complètement le cœur, au point de pervertir la perception des choses, si bien que la personne n'acceptera plus la vérité et ne blâmera plus le faux. Ibn al-Qayyim termine en disant, et c'est bien là, la pire des punitions du cœur. Je vous invite maintenant à méditer sur la situation de bon nombre de gens qui justement n'ont pas la bonne perception des choses, n'ont pas la crainte d'Allah Azza wa Jal, ne comprennent pas la religion comme il se doit, pensent du vrai que c'est faux et du faux que c'est vrai. Quelle en est la cause? L'éloignement du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. et l'abandon du rappel d'Allah, alors que ce qu'il fallait n'était pas l'abandon du rappel d'Allah, mais plutôt l'abondance du rappel d'Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, Ibn Rajab, pardon, continue. Il va maintenant passer à une autre cause d'adoucissement ou à un autre remède de la dureté du cœur. Et il dit « وَمِنْهَا الْإِحْسَانُ إِلَى الْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ » Parmi les remèdes à la dureté du cœur, la bienfaisance à l'égard des orphelins et des pauvres. « روى ابن أبي الدنيا قال حدثنا علي بن جعد قال حدثني حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن أبي هريرة أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المساكين إسناده جيد. Ibn Abi Dunya rapporte, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu un homme qui vint à lui pour lui dire « Ô messager d'Allah, je me plains à toi de la dureté de mon cœur. » Ce qui montre que les sahaba, radiyallahu anhum, portaient une grande considération à ce sujet. Ils craignaient la dureté du cœur et en cherchaient le remède. Ce compagnon dit « Ô messager d'Allah, je me plains à toi de la dureté du cœur. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Si tu aimerais ou si tu veux voir ton cœur s'adoucir, caresse la tête de l'orphelin et nourris le pauvre. » La bienfaisance envers l'orphelin, comme l'évoque Ibn Rajab rahimahullah, la bienfaisance envers l'orphelin, c'est de lui faire tout ce qui lui procure du bien, du plaisir. L'orphelin est celui qui a perdu son père avant d'atteindre la puberté. C'est lui l'orphelin dans le sens religieux. C'est un enfant qui n'est pas encore pubère et dont le père est décédé. L'orphelin a besoin de rahma, a besoin de pitié, de compassion, de miséricorde. L'orphelin est dans une épreuve dure au point où il a besoin de la bienfaisance envers les gens. Vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith a dit « Famsah ra'sa al-yatim » caresse la tête de l'orphelin « wa at'im al-masakin » et nourrit les pauvres. Il n'a pas dit « nourrit l'orphelin » et caresse la tête du pauvre. Parce qu'il est tout à fait possible qu'un orphelin soit riche, surtout si son père lui a légué des richesses. Et il est possible que le pauvre ne soit pas orphelin. Alors chacun, pour chacun, ce qui lui convient. L'orphelin, ce qui lui convient, c'est la compassion, la douceur, l'affection, la miséricorde. Tu pourras trouver un orphelin envers lequel les gens seront bienfaisants. Chacun viendra lui caresser la tête. Chacun viendra être bon envers lui, même s'il est riche, parce que cette richesse ne peut pas lui amener l'affection du père qu'il a perdu, du parent qu'il a perdu. Il est donc dans le besoin d'affection. C'est pour ça qu'il est sous le regard de beaucoup de gens. Être bienfaisant envers l'orphelin, caresser la tête de l'orphelin est une cause pour faire adoucir le cœur. Et cela montre que les actions faites par les membres ont bel et bien un impact sur le cœur, car la foi est un ensemble de convictions dans le cœur, de paroles prononcées par la langue et d'actions faites par les membres. Et lorsque l'on fait des actions, des bonnes actions, avec sincérité, pour Allah et conformément à la voie du prophète alayhi salatu wassalam, ces actions-là ont un impact sur le cœur. La preuve en est ici, où il lui dit « Si tu veux que ton cœur s'adoucisse, caresse la tête de l'orphelin. Si tu lui caresses la tête, plein de pitié pour lui, tu sentiras une douceur pénétrer ton cœur par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nourris les pauvres. Le pauvre est celui qui n'a pas assez de quoi se nourrir ou nourrir les gens de sa famille. Ici, ce sont les orphelins et les pauvres qui ont été cités, mais il n'en demeure pas moins que les gens au cas semblable sont aussi concernés. Par exemple, la femme veuve, le malade, la personne qui est de passage dans le pays, qui est en voyage et qui n'a plus rien pour arriver à destination. Tous ces gens-là méritent bienfaisance. Et aujourd'hui, nous vivons une époque où il y a tellement d'orphelins, il y a tellement de gens qui ont perdu leurs parents en bas âge avant la puberté. Subhanallah. Il faut donc se rappeler le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous et être bienfait envers eux, être bienfaisant, pardon, envers eux, envers les orphelins. Et ne pas oublier d'ailleurs tous ces orphelins de Palestine, tous ces orphelins de Gaza qui un jour se sont levés le matin et n'ont plus retrouvé ni leur père ni leur mère, pauvres qu'ils sont, innocents qu'ils sont, et qui ont vu leur père ou leur mère peut-être mourir devant eux. Ils sont devenus adultes à 7 ans, à 8 ans. Ils sont devenus des hommes et des femmes alors qu'ils sont encore tout petits, à l'âge de l'innocence, mais avec le terrible vécu qu'ils ont eu, ils sont déjà devenus des hommes et elles sont déjà devenues des femmes. Qu'Allah leur vienne en aide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les recouvre de miséricorde, de bonté. Qu'Allah leur accorde un avenir pieux. Qu'Allah azza wa jal élargisse pour eux leur subsistance et leur accorde de ses largesses. Qu'Allah azza wa jal pardonne à leurs parents décédés et les fasse habiter les plus hauts degrés du paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse leurs malades, enrichisse leurs pauvres, qu'Allah leur permette de vivre en paix, dans la sérénité, et leur donne une vie digne, comme c'est le souhait de tout un chacun parmi les enfants d'Adam. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Subhanallah, on voit donc dans ce récit que les compagnons s'inquiétaient pour leur cœur. Le croyant doit s'inquiéter pour son cœur. Et les sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, savaient le danger de la dureté du cœur. Et ils cherchaient justement à y remédier. Ils recherchaient les causes, donc ils vont voir le prophète, alayhi wassalam, et lui disent, « Ô messager d'Allah, je sens mon cœur partir, je sens mon cœur qui est dur. Que faire ?» Le prophète, alayhi wassalam, les éduque. Elle leur apprend que dans cette vie, on ne doit pas laisser le cœur durcir, mais on doit l'adoucir, le soigner, demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guérison. Il y a des gens qui peut-être ont le cœur dur, et ça, c'est le pire des cas, sans s'en rendre compte. Leur cœur va peut-être jusqu'à mourir, sans qu'ils ne s'en rendent compte, bien trop occupés par leurs projets mondains, pourtant bien futiles. Et ça, c'est la plus grande des supercheries dont ils ont été victimes par Iblis, al-Shaytan, al-Rajim. Celui qui caresse la tête de l'orphelin, plein de compassion pour lui, verra son cœur s'adoucir, insha'Allahu ta'ala. C'est donc très important. Ibn Rajab, rahimallah, dit, وكذا رواه ابن مهدي عن حماد بن سلمة ورواه جعفر بن مسافر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كأنه غير محفوظ عن حماد ورواه الجوزجاني قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبو عمران الجوني مرسلا وهو أشبه، وجعفر أحفظ لحديث أبي عمران من حماد بن سلمة. Ici, Ibn Rajab, rahimahullah, a cité différentes chaînes de transmission de ce récit, car Ibn Rajab, rahimahullah, fait partie des savants qui portent une grande considération à l'authenticité des hadiths et à leur chaîne de transmission, qui est justement le moyen permettant de porter un jugement sur le récit imputé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui nous permet de savoir s'il est authentique ou non. C'est ce qu'on appelle la chaîne de transmission. Donc, dans certains de ses ouvrages, il va citer un récit, puis il va citer les différentes variantes de chaîne de transmission. Ensuite, Ibn Rajab, rahimallah, dit « وَرَوَا أَبُو نُعَيْمْ عَنْ طَرِيقِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَنْ مُعَمَّرْ عَنْ صَاحِبٍ لَهُ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَتَبَ إِلَى سَلْمَانِ اِرْحَمِ الْيَتِيمَ وَأَدْنِهِ مِنْكِ وأطعمه من طعامك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يشتكي قساوة قلبه فقال أتحب أن يلين قلبك فقال له نعم فقال أدن اليتيم منك وامسح رأسه وأطعمه من طعامك فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك. ابن رجب rapporte que أبو الدرداء, ce noble compagnon, a écrit un conseil à son compagnon Salman, radiyallahu anhu. Et Salman et Abu Darda ont une histoire particulière dans leur amitié. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé de l'émigration de Mecca jusqu'à Médine, arrivé à Médine, il a choisi un Ansar, un Ansari, un habitant de Médine et un habitant de la Mecque, et il leur disait « Désormais, vous êtes frères. » Il les liait d'amitié entre eux. Et il a fait ça avec chaque habitant de Médine et chaque habitant de la Mecque. Parmi eux, il y avait justement Abu Darda et Salman al-Farisi. Ils se sont donc liés d'amitié et ils ont eu des histoires ensemble. Parmi lesquelles, le fait que Abu Darda, radiyallahu anhu, sa femme se plaignait parce que Abu Darda radiyallahu anhu priait la nuit, jeûnait le jour et il était fortement impliqué dans l'adoration au point où sa femme s'en est plaint. Elle s'en est plaint de ne pas avoir assez de temps avec son époux. Et Salman radiyallahu anhu est allé voir Abu Darda et il lui a prodigué ce conseil en lui disant « Il faut que tu pries la nuit et que tu dormes aussi. » Que tu jeûnes parfois et parfois que tu ne jeûnes pas et que tu accordes du temps à ton épouse. Donne à chaque ayant droit le droit qui lui revient. Donc là, c'est Salman qui a conseillé Abu Darda. Et dans ce récit-là, c'est le contraire. C'est Abu Darda qui va conseiller Salman. On voit que les frères se conseillent dans l'obéissance à Allah. Abu Darda va justement dire à Salman, radiyallahu anhuma, caresse l'orphelin et rapproche-le de toi. Nourris-le de ton repas que tu manges, car j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'un homme vint se plaindre à lui de la dureté de son cœur, lui répondre « Aimerais-tu que ton cœur s'adoucisse ?» L'homme lui dit « Oui ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit alors « Rapproche l'orphelin de toi et caresse-lui sa tête. Nourris-le de ce que tu manges. Et certes, cela fera adoucir ton cœur et tu pourras alors accomplir ton besoin. » Tu pourras alors accomplir ton besoin. C'est-à-dire que quand tu seras bienfaisant envers l'orphelin au point de lui caresser la tête, de le rapprocher de toi, de lui accorder une place qui lui manque puisque son père n'est plus là pour le faire. Lorsque tu lui donneras à manger de ce que toi-même tu manges, tu donnes donc de ce que tu aimes. Tu ne donnes pas de ce que tu n'aimes pas pour t'en débarrasser, mais tu donnes de ce que tu aimes, et bien lorsque tu agiras ainsi, tu pourras accomplir ton besoin parce que tu seras aidé et assisté par Allah pour réussir dans tes entreprises. Cela montre que quand tu fais le bien envers l'orphelin, de manière générale, quand tu fais le bien envers autrui, c'est une cause pour recevoir de la part d'Allah at-tawfiq, l'assistance qui te permet de réussir dans tes entreprises. Tu veux être aidé par Allah et réussir dans tes entreprises? Ahsin, sois bienfaisant envers l'orphelin, envers le pauvre, envers les gens dans le besoin. Nourris-les de ce que tu manges, aide-les dans leurs besoins et tu te verras aidé par Allah dans tes besoins à toi, parce que tu as aidé les autres dans leurs besoins. Allahu Akbar. Et ça, c'est un grand bienfait. Ibn Rajab, rahimahullah, a dit, « قال أبو نعيم ورواه ابن جابر والمطعم ابن المقداد عن محمد بن واسع أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان مثله. ونقل أبو طالب أن رجلا سأل أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل فقال له كيف يرق قلبي؟ قال ادخل المقبرة وامسح رأس اليتيم. Il a été rapporté que l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, a été interrogé par quelqu'un qui lui a dit « Comment faire adoucir mon cœur ?» L'imam Ahmad, rahimahullah, lui a dit « Rentre dans le cimetière et caresse la tête de l'orphelin. » C'est-à-dire, tu veux que ton cœur s'adoucisse ? Va visiter les tombes, va te rappeler de la mort. Et c'est justement le remède de la dureté du cœur suivant, dans lequel on va entrer dans un instant, Inch'Allah. Rentre au cimetière et caresse la tête de l'orphelin. Donc encore une fois, le fait de caresser la tête de l'orphelin, d'être bienfaisant envers lui, si l'occasion se présente, ne la négligez donc pas. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, Ibn Rajab rahimahullah dit « Wa minha kathratu dhikri al-maut » Parmi les remèdes à la dureté du cœur, l'abondance du rappel de la mort, se souvenir de la mort constamment, fréquemment. ذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية. Ibn Abi الدنيا rapporte, d'après صفية, أن امرأة أتت عائشة لتشكو إليها القسوة. Qu'une femme est venue à Aïcha, radiyallahu anha, pour se plaindre à elle d'une dureté qu'elle ressent dans son cœur. Faqalat, Aïcha lui dit, Akthiri dhikra al-maut. Rappelle-toi abondamment, beaucoup de la mort. Yariqa qalbuk. Ainsi, ton cœur deviendra doux. Wa taqdirina ala hajatik. Et tu pourras accomplir ton besoin. Vous voyez, la même phrase. Tu pourras accomplir ton besoin. Subhanallah. Lorsque tu fais adoucir ton cœur, Allah t'aide à accomplir ton besoin. Il t'en donne la force. Il t'assiste. Il t'accorde la réussite dans tes entreprises, dans tes besoins. Cette femme vient à Aïcha radiallahu anha se plaindre de la dureté du cœur. Regardez comment étaient ses pieux prédécesseurs. Aujourd'hui, les gens ne se soucient plus ou presque plus de l'état de leur cœur, bien trop occupés par la dunya, bien trop ivres d'elle, bien trop emparés par qui ? Par ce bas monde, par cette technologie, toute cette technologie qui tourne autour de nous à tout va, à très grande vitesse. À quoi elle sert notamment ? Elle sert à nous endormir. Elle sert à tuer nos cœurs, à les faire mourir et à les distraire du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu passes des heures et des heures à souiller ton cœur, à regarder vidéos les unes après les autres. Instagram, Facebook, TikTok et j'en passe. Et c'est l'un des pires moyens pour tuer ton cœur. Au lieu de lire du Coran, au lieu de faire du rappel, au lieu d'étudier ta religion, au lieu d'apprendre la langue arabe, l'alphabet de la langue arabe, tu t'assois avec ton téléphone et tu regardes ce qui se passe à gauche et à droite, en haut et en bas. Et au final, ça ne te sert à rien du tout, et ton cœur s'éloigne et se recouvre de tout le mal que tes yeux ont regardé et tes oreilles ont entendu. Qu'Allah nous en préserve. Et ça te fait oublier le rappel de la mort. Parce qu'une des plus grandes causes de la dureté du cœur, c'est le long espoir de croire que tu vas vivre 1000 ans, si bien que tu repousses tout à plus tard. Et tu te fais croire ce que tu ne feras pas. Je vais me remettre bien dans le droit chemin. Je vais me régler, je vais me réformer, je vais me corriger. J'irai à la mosquée avec eux, j'irai au hajj avec eux, j'irai à la umra avec eux. Je paierai la zakat comme eux, je vais jeûner comme eux, je vais prier comme eux. Et tu te rends compte que ça fait 10 ans que tu dis ça. On connaît des gens, qu'Allah nous guide tous et les guide, qui répètent ces paroles depuis tant d'années. Je porterai un jour le hijab, je porterai le voile. Et puis tu vois que ça fait 10 ans, 15 ans qu'elle dit ça. Elle ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'elle pense qu'elle va vivre assez de temps, ou parce qu'il pense qu'il va vivre assez de temps, et qu'il aura le moment, le temps, l'occasion de se remettre en question, de se corriger. Alors il repousse. Il repousse à plus tard, il repousse à plus tard, et il se dit « j'y pense, j'y pense ». C'est bien d'y penser, mais qu'est-ce que tu as œuvré, qu'est-ce que tu as agi ? Si tu te rappelles de la mort, et tu es conscient que tu peux mourir d'une minute à l'autre, combien t'ont dit à demain et il n'y a pas eu de lendemain pour eux ? Combien t'ont dit à tout à l'heure et il n'y a pas eu pour eux de tout à l'heure ? Combien ont eu des projets qu'ils n'ont jamais vu s'aboutir parce que la mort s'est interposée entre eux ? Alors, un des plus grands moyens pour éliminer la dureté de ce cœur, c'est de se rappeler de la mort. La mort, c'est la fin. La mort, c'est la fin dans cette dunya, mais c'est le début dans l'au-delà. C'est le début de la réalité. La mort, c'est la fin du mensonge, de l'illusion, de la tromperie, et le début de la réalité, de la vérité et du sérieux. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Akthiru dhikra hadimi ladhat ». Rappelez-vous abondamment du destructeur du destructeur des plaisirs. Quel est le destructeur des plaisirs ? C'est la mort. La mort, elle détruit tout. Et quand tu te rappelles de la mort, tu penses directement aux bonnes actions. Et c'est ainsi que le cœur s'attendrit parce qu'il se rapproche de l'akhira. Il se rapproche de l'au-delà. Et lorsque tu meurs, tes feuillets de bonnes actions s'arrêtent. Tu n'as plus de bonnes actions, c'est trop tard. Sauf ce dont a parlé le prophète alayhi salatu wassalam, parmi les actions dont les bénéfices continuent même après la mort. Comme le fait de laisser un enfant pieux qui invoque Allah en ta faveur. Comme une sadaqa jariya, une aumône qui perdure, comme une science utile, comme un puits que tu as creusé, un mushaf que tu as fait hériter, et ainsi de suite parmi ces bonnes actions qui continuent à t'apporter du bien après la mort. À part ces actions-là, tu n'as plus rien. Et celui dont le cœur est dur parmi les gens n'aime pas le rappel de la mort. Comme si en parlant de la mort, on allait lui rapprocher la date de sa mort. Subhanallah. Il y a des gens qui disent « Pourquoi nous parle-t-il de la mort ?» Ne me parle pas de ça. Ne me parle pas de ça. Pourquoi ne parle pas de ça ? Si c'est quelque chose que tu allais éviter, à la rigueur, on pourrait peut-être ne pas en parler. Mais c'est quelque chose que tu vas vivre. Tu en es conscient, tu le sais. Alors, qu'est-ce que ça va changer d'en parler ? Si ce n'est en bien de te pousser à te réformer, mais c'est peut-être parce que tu suis tes passions, parce que tu aimes les péchés que tu commets, et tu n'aimes pas la vérité, tu ne veux pas la voir en face, que tu ne veux pas qu'on te parle de la mort. S'il en est ainsi, c'est que ton cœur est dur, et tu dois te remettre en question. Parler de la mort ne te rapprochera pas de la mort. Car la date de la mort est fixée dans le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait parmi les salafs, les pieux prédécesseurs, certains qui évoquaient énormément la mort. Énormément la mort. Subhanallah. Et ils disaient que la mort est comme de l'alcool consommé qui nous rend ivre. Il disait, pardon, que cette vie d'ici-bas est comme de l'alcool consommé qui nous rend ivre. Et on ne s'en réveillera de cette ivresse qu'après la mort. Certains parmi les pieux prédécesseurs disaient que ma raison disparaît, mon raisonnement sain disparaît jusqu'à ce que je me rappelle de la mort. Quand je me rappelle, c'est-à-dire quand je me rappelle de la mort, je raisonne de façon saine. Et subhanallah, Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, disait, « Ayyuhan nas, ô vous les gens, Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, est un homme vertueux, un imam dans les pieux prédécesseurs. Il disait aux gens, Ayyuhan nas, In kunna musaddiqin, inna la hamqa. Si nous croyons, alors nous sommes des imbéciles. Wa in kunna mukadhibin, inna la halka. Et si nous ne croyons pas, alors nous sommes dans la perdition, nous avons péri. C'est-à-dire, si nous croyons à tout ce qu'on apprend dans notre religion, en ce qui concerne l'au-delà, le jugement, la mort, la tombe, le châtiment, le supplice de la tombe, l'interrogatoire, yawm al-qiyam, le jour de la résurrection, nous croyons et nous n'œuvrons pas, alors nous sommes des imbéciles. Et si nous ne croyons pas à tout ça, alors nous avons péri. Il disait ces phrases-là, et ne descendait de la chair, de la tribune sur laquelle il a prononcé ce discours, qu'après avoir vu les gens pleurer. Car il méditait, ces gens-là méditaient, subhanallah. Ses pieux prédécesseurs disaient que si on se sépare du rappel de la mort, ne serait-ce qu'un instant, nos cœurs deviendraient pervertis. Que dire alors de ceux qui ne pensent même pas à la mort? Subhanallah. Allahu Akbar. Cette femme-là vient voir Aïcha radiyallahu anha. Elle se plaint de la dureté du cœur qu'elle ressent. Aïcha radiyallahu anha lui dit, pense à la mort abondamment, ton cœur s'attendrira et tu seras capable d'accomplir ton besoin. Ton cœur s'attendrira. Parce que tu t'es rapproché d'Allah, tu as pensé à la mort. Et Allah te donnera en récompense la réussite dans tes entreprises. Subhanallah. Subhanallah. Combien de gens ont le cœur dur, ne pensent pas à la mort, ne rappellent pas le nom d'Allah Azza wa Jal. Ils ont le cœur dur et leur vie est difficile. Leurs intérêts mondains sont difficiles. Ils ne sont pas aidés par Allah. Une punition d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Aïcha te dit, rappelle-toi de la mort. Ton cœur s'attendrira et Allah t'aidera dans tes entreprises. Qalat fa fa'altu. La femme a dit, j'ai donc appliqué ce que Aïcha m'a dit. Fa'anasat min qalbiha rushda. Elle a appliqué ce que Aïcha lui a dit et elle a trouvé son cœur revenir à la droiture. فجاءت تشكر لعائشة رضي الله عنها. Puis elle est venue remercier عائشة رضي الله تعالى عنها. قال ابن رجب وكان غير واحد من السلف منهم سعيد بن جبير وربيع بن أبي راشد يقولون لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا. Il rapporte justement cette parole de certains salafs tels que سعيد بن جبير et autres qui disaient: si le rappel de la mort se sépare de notre cœur un instant, nos cœurs deviendraient alors pervertis. Wa fi sunani 'ani an-nabi sallallahu 'alayhi wa sallam. Akthiru dhikra hadhimi al-ladhdhat al-maut. Également, l'imam Ahmad, al-Tirmidhi, al-Nasa'i ainsi qu'Ibn Majah rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Akthiru dhikra hadhimi al-ladhat » « Rappelez-vous abondamment de celle qui détruit les délices et les plaisirs, la mort. » La mort détruit les délices, alors que tu es là en train de jouir des délices mis à disposition par Allah Azza wa Jal, la mort arrive. Tu ne peux plus jouir. Tu ne peux plus assouvir ton désir ou alors jouir de ces bienfaits-là. La mort, elle coupe les plaisirs et elle te ramène à la vérité. Parce que parfois, ces plaisirs-là te font oublier cette vérité. وَرُوِيَ مُرْسَلًا عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَصَانِي قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَجْلِسٍ قَدْ اسْتَعْلَاهُ الضَّحِكُ فَقَالَ شُوبُوا مَجْلِسَكُمْ بِذِكْرِ مُكَدِّرِ اللَّذَّاتِ قَالُوا وَمَا مُكَدِّرُ اللَّذَّاتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمَوْتِ. Et on s'arrêtera sur le dernier récit qui n'est pas authentique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé près d'une assemblée de gens qui étaient en train de rire. Ils étaient tous en train de rire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Shubu majlisakum bidhikri mukaddiri alladhat ». Comment vous traduire « Shubu majlisakum » En fait, il leur dit « Enlevez ». Enlevez cette réjouissance que vous ressentez dans votre assise. Enlevez-la par le rappel de ce qui vient entacher vos délices. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui entache nos délices au messager d'Allah? Il répondit, la mort. Le récit n'est pas authentique, mais l'information est conforme au hadith cité précédemment. Comme je vous l'avais dit lors d'une dernière assise, Ibn Rajab rahimahullah se base sur des textes qui sont authentiques. Il va en faire les bases dans les preuves pour argumenter dans ce qu'il avance. Puis il peut arriver qu'il cite des récits qui ne sont peut-être pas authentiques, non pas parce qu'il est ignorant du fait qu'ils ne sont pas authentiques, mais parce que le contenu est appuyé par le texte qui est authentique. On s'arrête ici, inshallah ta'ala, et on reprend demain, bi'idhnillahi ta'ala, si Allah nous prête vie, demain, à midi et demi, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.